Sommes-nous manipulés par Big Pharma? Je suis aujourd'hui avec le professeur Christian Perron, le docteur Bernard Cron et le journaliste Hervé Bazin pour répondre à cette question. Christian Perron, bonjour. Faut-il encore vous présenter? Nous avons fait une émission ensemble ici sur BTLV qui a cassé la baraque, hein, faut bien le dire. Mais vous êtes quand même l'ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches et vous êtes l'auteur de « Décidément, ils n'ont toujours rien compris », un livre qui balaye l'ensemble de la crise pour pointer l'ensemble des dysfonctionnements. Bernard Cron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris. Et vous êtes l'auteur de Blouse blanche, colère noire, édité chez la très bonne maison d'édition Max Milo. Un livre qui, en fait, radiographie les raisons de la ruine de notre système de santé depuis 40 ans, 50 ans
oui.
À peu près.
Oui, à peu près 40 à 50 ans. Alors, c'est une descente aux enfers très progressive avec la disparition de l'élitisme, la suppression du concours de l'externat qui formait d'excellents médecins en mai 68, la suppression du concours d'internat en 2002 qui formait d'excellents spécialistes et maintenant des bataillons d'internes qui manifestent car ils se suicident.
Alors, on va en parler.
Tristes.
On va parler de Big Pharma, mais on parlera aussi justement du système hospitalier. Et puis, nous sommes en duplex avec Xavier Bazin. Xavier Bazin, bonjour, vous m'entendez?
Bonjour, oui, tout à fait.
Vous êtes journaliste scientifique, éditeur, écrivain, et vous venez de publier Big Pharma démasqué, une enquête qui balaye, en fait, pareil, tous les thèmes de la chloroquine au vaccin, la crise du coronavirus, l'ensemble des problèmes de la crise du coronavirus et le rôle de Big Pharma dans la gestion de cette crise. Première question, c'est une question un peu personnelle. Vous ne souhaitez pas apparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes méfiant, vous êtes menacé? Qu'est-ce qui se passe?
Non, écoutez, c'est simplement. D'abord, c'est par voilà, ma grand-mère disait vivant heureux, vivant caché. Donc moi, j'ai pas spécialement envie de m'exposer. Et puis bon, je suis sans être paranoïaque. On est quand même face à une industrie pharmaceutique qui à peu près 500 milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires annuel. Si les recommandations et ce que j'ai écrit depuis 10 ans sur le domaine de la santé étaient mises en œuvre, ce serait beaucoup moins et des dizaines de milliards de profits qui s'évanouiraient. Donc voilà, moi je préfère autant rester discret.
Ok. Je vais vous poser à tous les trois une première question, puisqu'on se demande si nous sommes manipulés par Big Pharma. On va parler d'hydroxychloroquine, des traitements, des remèdes. On va également parler du confinement et des vaccins et des mensonges qu'il y a pu avoir dans la gestion de cette crise. Mais une première question générale que je vous pose à vous trois, est-ce que la gestion de cette crise a été influencée par Big Pharma? Est-ce que Big Pharma a pesé sur le déroulé de cette gestion de crise?
Écoutez, c'est absolument incontestable et la preuve la plus évidente, c'est dans les deux énormes anomalies qu'on a vues depuis le tout début de la crise. La première anomalie concerne les traitements. On est passé à côté de traitements anciens, peu coûteux, pour certains naturels et sans le moindre risque et le moindre danger, qui étaient efficaces. Les études scientifiques l'ont prouvé les unes après les autres et on n'a pas voulu en entendre parler. On ne parlait au départ que de nouveaux antiviraux brevetables à 3000 euros la dose, qui faisait bien sûr les affaires de l'industrie pharmaceutique. Et la deuxième anomalie énorme, c'est la focalisation sur la vaccination comme seule réponse à la crise, alors qu'on savait qu'elle arriverait bien tard, après le deuxième hiver, et qu'elle comporte, étant donné que c'est des technologies expérimentales, un certain nombre de risques. Et quand on voit maintenant qu'on veut vacciner les enfants, on voit bien qu'on n'est plus dans une réflexion sanitaire, on n'est plus dans une réflexion rationnelle, mais dans des intérêts qui ont pris le pouvoir sur notre santé.
Christian Perron, Bernard Cron, est-ce que Big Pharma a pesé sur la gestion de la crise?
Pour moi, c'est une évidence, c'est pas contestable. Et je suis heureux parce que déjà dans mon livre sur la vérité sur la maladie de Lyme, chez Odile Jacob, qui est paru il y a déjà plusieurs années, j'avais dit que l'industrie pharmaceutique était la première cause de corruption au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Quand on avait été pour protester contre le verrouillage de la maladie de Lyme, en disant que c'est une maladie qui n'existait pas pour des raisons politiques et de corruption, on nous l'avait dit clairement à l'ONU. Et maintenant, quand j'ai vu la crise du Covid arriver, qu'il y avait des médicaments qui marchaient, c'était évident, la suite pour l'hydroxychloroquine, dès les premières études en Chine, après les études merveilleuses de Raoult, après toute l'expérience dans les pays du monde, après l'ivermectine qui marche encore mieux, plus les données sur la vitamine D. Il y a encore une étude qui est sortie ces jours-ci sur la vitamine D. Il n'y a plus de contestation possible. Et il y a la preuve qu'il y a des médicaments qui marchent super bien si on les donne tôt.
On va revenir dans le détail
Le problème, c'est que le ministre de la Santé a dit aux médecins, vous n'avez pas le droit de traiter, prenez du Doliprane, appelez le 15. Bon, il se trouve que la semaine dernière, on ne pouvait plus appeler le 15, mais ça, c'est un autre phénomène. Et puis, quand vous êtes bien mourant et bien grave, vous allez aux urgences, vous saturez les urgences, vous saturez les services de médecine et vous saturez les réanimations. Tous ces malades n'auraient jamais dû venir à l'hôpital. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a des groupes de médecins généralistes qui ont traité. Et le jour où ils ont découvert l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, maintenant l'ivermectine, le zinc, la vitamine D, ils ont dit, on n'hospitalise plus personne, on guérit. Et là, maintenant, ils sont attaqués par le Conseil de l'Ordre en disant, vous êtes des charlatans parce qu'ils guérissent. Maintenant, le plus grand péché d'un médecin, c'est de guérir ses malades.
On va revenir dans le détail sur les remèdes, sur l'hydroxychloroquine, le remdesivir. Bernard Cron, même question. Votre livre n'est pas axé essentiellement sur Big Pharma, mais quand même, quand on le lit et quand on le lit bien, on s'aperçoit que c'est un thème qui revient régulièrement.
C'est un thème qui revient parce que Big Pharma a une énorme influence. Ce qui est important pour Big Pharma, c'est de faire du chiffre d'affaires et de sortir des nouveaux médicaments, car les anciens sont tombés en désuétude et ne rapportent rien. Et pour pouvoir sortir des nouveaux médicaments, il faut faire des études, et ces études sont souvent bidonnées. Regardez le scandale Lancet qui a été retiré, il donnait de la chloroquine jusqu'à 4 fois la dose prescrite par le professeur Raoult. Je ne dis pas que la chloroquine marche ou ne marche pas, je ne suis pas compétent en la matière, le professeur Perronne beaucoup plus que moi. Mais dans ce même domaine, il faut savoir qu'un vaccin ne peut être utilisé que s'il n'y a pas de traitement. Donc pour sortir un vaccin, il ne faut pas qu'il y ait de traitement. Le but de ce protocole était de mettre en évidence l'efficacité des antiviraux et le recovery, COVID, etc.
Ce sont deux études également de protocoles.
Ce sont des études dites randomisées. Elles sont tombées très vite en désuétude parce qu'ils se rendaient compte que les antiviraux ne marchaient pas. Et ils ont eu l'outrecuidance de ne pas mettre en comparaison le protocole prescrit par le professeur Raoult qui associait l'azithromycine à la chloroquine. Ils l'ont fait avec la chloroquine seule et parfois à de forts dosages. Donc, tout ça me semble être le coin du bois, la manipulation volontaire.
Alors, quand on regarde le déroulé de cette crise, et en particulier quand on lit le livre de Xavier Bazin, vous avez structuré votre livre en 4 chapitres, et les 3 premiers sont des scandales. Vous allez de scandale en scandale. J'aimerais qu'on suive un peu ce chemin scandaleux. Le premier scandale pour vous, mais je crois que pour mes invités ici en plateau, ce sera un peu la même chose, c'est le scandale de l'hydroxychloroquine et de sa diabolisation, de son abandon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est réalisé cet abandon et pourquoi on a abandonné l'hydroxychloroquine ?
Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que ce médicament très très banal, qui a été pris par des milliards de personnes, qui ne présente très très peu de risques et dont on connaît parfaitement les risques et les interactions, a été tout de suite très prometteur contre la Covid et a subi une diabolisation effrénée jusqu'à, comme l'a dit le docteur Cron, des fausses publications du Lancet, jusqu'à des surdosages dans l'étude Recovery, et bien sûr son interdiction en France. C'était la première fois
qu'un ministre de la Santé... En deux mots, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, ce qui s'est passé avec le Lancet, l'espèce de fausse étude, et puis avec ces études de surdosage aussi, le surdosage
En deux mots, le Lancet, qui est un des plus grands journaux médicaux, des plus prestigieux, a publié une étude sur 96 000 patients qui indiquait que la chloroquine tuait 10% des patients. Et en fait, aucun de ces patients n'était réel. Tout était entièrement bidonné. Et on s'étonne quand même encore aujourd'hui qu'il n'y ait toujours pas eu d'enquête pénale, en fait.
C'est ça, j'allais vous demander. On a su
Mais non, vous voyez, ça tant que c'est ça inquiéterait les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Donc, je pense qu'on n'investit pas suffisamment. Donc, ça a été un premier énorme scandale, bien sûr, dont Olivier Véran s'est empressé d'utiliser pour interdire définitivement l'hydroxychloroquine. Il y a eu des études où on a donné, comme ça a été dit, 4 fois la dose. Et puis en plus de façon très tardive, alors que le protocole Raoult doit être donné dès le plus précocement possible, ça va de soi. Donc il y a eu tout un tas de, et ça je les explique dans mon livre, tout un tas d'études biaisées ou frauduleuses pour essayer de faire croire que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas, alors que maintenant avec le recul, il y a à peu près 250 études scientifiques qui ont été publiées, et toutes celles où on a donné l'hydroxychloroquine en traitement précoce montre une efficacité. Donc là, il n'y a plus de débat possible. Il y a récemment une étude iranienne observationnelle sur 30 000 patients qui a conclu à une diminution.
Alors vous avez toujours des gens pour vous dire oui, mais l'Iran, les études sont pas fiables.
C'est la somme des études qui fait que il y a plus aucun doute sur le signal d'efficacité. Quand vous en avez, et puis là c'est quand même sur 30 000 patients, elle a été très bien faite. Il y a 70% de mortalité en moins. Alors admettons qu'il y a certains biais et que ce soit que la moitié, ça fait quand même au moins 30% de mortalité en moins. Et donc on parle sur 100 000 morts en France de 30 000 morts en moins. Donc c'est considérable, si vous voulez. Et toutes les études, la plupart des études vont dans le même sens. Donc, il y a vraiment plus de débat. Quand on regarde les études scientifiques d'un œil un peu à la fois aiguisé et honnête, ce qui est malheureusement pas le cas de la plupart des gens qui soit sont aiguisés et connaissent les études, ne les regardent pas d'un point de vue honnête, soit ne sont pas suffisamment compétents, il ne peut y avoir aucun doute raisonnable sur l'efficacité de ce médicament. Et donc, c'est extrêmement choquant de voir qu'il a été interdit en France, en plein cœur de la première pandémie, alors que c'était un médicament tout à fait banal et très prometteur. Et puis, souvenez-vous, c'est tombé récemment les résultats définitifs de la fameuse étude Discovery que nous avait promis Emmanuel Macron sur les traitements. C'est très intéressant parce que on nous avait promis des résultats courant avril, et puis finalement, on les a pas eus avant des mois et des mois. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est parce que les résultats intermédiaires montrait une efficacité très importante de l'hydroxychloroquine, même s'il n'y avait pas assez de patients pour que ce soit significatif. J'imagine les sueurs froides en avril, mai, d'Olivier Véran, qui avait interdit ce médicament, quand il a vu qu'à mi-parcours, à 15 jours, il y avait moitié moins de morts dans le groupe hydroxychloroquine que dans le groupe placebo. À 28 jours, il y avait 30% de morts en moins, donc c'était un peu moins effectif, mais quand même effectif. Tout ça n'étant pas, certes, statistiquement significatif, mais vous imaginez bien les sueurs froides, parce que si on avait inclus suffisamment de patients et que ça avait confirmé cet effet, mais je ne sais pas si vous imaginez la déflagration que ça aurait causé, puisque c'était l'étude principale que la France mettait en avant. Et puis, petite parenthèse, je peux vous garantir que s'il y avait eu le même effet, si on avait observé le même effet sur le médicament de Gilead, une big pharma,
on va y venir dans un instant.
À mi-parcours, eh bien, on aurait annoncé avec les trompettes que, certes, c'était pas encore significatif, mais que c'était extrêmement prometteur, puisqu'il y avait ce médicament de Gilead qui semblait montrer des résultats exceptionnels. Donc là, on a manifestement, avec Discovery, un exemple supplémentaire de la manipulation scientifique.
Avant de revenir vers Christian Perron, je vais me tourner vers Bernard Kron. Bernard Kron, vous évoquez dans votre livre la question de l'hydroxychloroquine avec un sous-titre « Scandale français ». Point d'interrogation. C'est un scandale français
Point d'interrogation, oui, parce que Big Pharma sait très bien faire et on est dans les conflits d'intérêts. Big Pharma agit de la façon suivante. Quand il repère des grands scientifiques encore jeunes qui sortent de la faculté de leur concours, il les invite dans des congrès, dans des bons hôtels, etc. Ils s'en font des amis et ils ne demandent rien au départ. Et ensuite, ces grands scientifiques, qui sont tous experts, leur sont redevables. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une étude ?
Ça veut dire que les pontes sont achetées par...
Ils ne sont pas achetés. Ils se les mettent du bon côté. Moi, j'ai inventé les prothèses biliaires. Mon laboratoire m'a invité dans des grands congrès. Mais c'était mes prothèses. Donc, je voulais les faire connaître. Mais si ça avait été un produit pour lequel on m'avait demandé de donner mon avis, il est très difficile, quand on a un laboratoire avec qui on est en bon terme, de démolir son protocole. Or, il est évident que les protocoles qui ont été faits était pour démontrer l'efficacité des antiviraux qui sont très chers, et ces antiviraux sont toxiques. Par exemple, le Remdesivir, ils ont réussi à le faire acheter par l'Europe pour 1 milliard d'euros, et ce Remdesivir est beaucoup plus toxique que la chloroquine.
Alors, donc voilà la situation. Sur la chloroquine, vous posez la question, un scandale français, et vous évoquez, pareil, une autre question, est-ce qu'il y a eu une entrave à la recherche sur cette question?
Il y a eu une entrave dans la mesure où j'ai essayé de me procurer de la chloroquine au début de la pandémie. Moi, j'ai eu la chance, au moment de l'épidémie H1N1, d'être en contact avec Buisson, le directeur de la santé. Et j'ai gardé les masques FFP2 quand je suis parti en vacances le 20 janvier en Martinique en invitant mes enfants. Et j'avais mes masques dans ma valise. Et j'ai été étonné que dans les aéroports, personne ne mettait de masque. Et j'étais sûr que la pandémie allait démarrer, j'en parle dans mon livre, puisque j'étais en train de l'écrire, et je l'ai réécrit à la vue de cette pandémie, car Blouse Blanche, Colère Noire était fait au départ pour critiquer la chute du système de santé voulue par les dirigeants, quel que soit leur bord politique. Et donc, quand j'ai vu cette crise démarrer, j'ai vu ce que conseillait le professeur Raoult, ça me semblait satisfaisant. C'était disponible. Je n'ai pas pu m'en procurer, ou plutôt je m'en suis procuré grâce à ma belle-fille italienne qui est chirurgienne à Rome. Et je n'ai pas eu à l'utiliser parce que j'ai pris le maximum de précautions. Et je me pose toujours la question si c'est un traitement efficace, si il faut l'utiliser, car ils ont essayé de le détruire. Voilà la situation.
Christian Perron, sur l'hydroxychloroquine.
Alors, vous parliez de l'absence d'études. Effectivement, Didier Raoult l'a dit l'autre jour publiquement. Il a demandé des financements pour faire une étude randomisée pour confirmer l'efficacité de l'hydroxychloroquine azithromycine. Ça lui était refusé au prétexte que son équipe n'était pas suffisamment compétente pour mener une étude clinique. Quand on voit que Raoult est un des meilleurs microbiologistes au monde, qu'il a une équipe de professeurs qui sont des amis, une équipe gigantesque de recherche derrière.
Et qu'un nombre incroyable de pays suit en plus ces études et ces
protocoles. Et puis il faut sortir du nombril français. Quand on compare les pays qui ont utilisé massivement l'hydroxychloroquine azithromycine, maintenant l'ivermectine, au Pakistan, la nigelle, qui est une plante, même l'artémisia, qui est utilisée dans beaucoup de pays, avec des études in vitro qui démontrent l'efficacité de l'artémisia. Alors, cliniquement, les études cliniques sont pas terminées, mais on va avoir les résultats bientôt. On voit qu'il y a des pays qui ont fait merveille, qui ont contrôlé l'épidémie avec les médicaments. Quand on voit qu'il y a eu le... Vous savez, en Inde, on a dit, ça y est, c'est la catastrophe, il y a un variant indien qui va tuer la planète. Bon, on nous a dit la même chose pour le Brésil, et puis au Brésil, c'est en train de se casser la figure. Bon, en Inde, on regarde l'Inde, c'est presque 1,5 milliard d'individus. C'est un État fédéral. Les États qui ont continué à donner gratuitement aux malades de l'ivermectine, du zinc, de la vitamine D, de la doxycycline, mais c'est important parce que là où il y a eu le rebond épidémique, un rebond de mortalité, c'est dans les zones où on a vacciné massivement. Donc les vaccins, maintenant, on a la preuve dans plein de pays que ça sélectionne des nouveaux variants qui échappent aux vaccins. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, la France et la Belgique ont envoyé en Inde leur stock de Remdesivir, qui sont un produit toxique qui ne marche pas, parce qu'ils l'avaient payé cher, et on l'a envoyé aux Indiens. On sait que le Remdesivir est un agent mutagène qui favorise la sélection de mutants. Donc là, pour moi, c'est un immense scandale qui est planétaire.
Alors, vous venez de dire... On l'a payé cher, vous l'avez payé cher, vous aussi, puisqu'on vous a démis de vos fonctions de chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, tout simplement parce que vous aviez juste l'outrecuidance de porter cette parole, c'est ça?
Oui, parce que j'ai eu des propos indignes. Donc moi, je suis fier de cette radiation de ma chefferie de service. Pour moi, c'est mieux que la Légion d'honneur, parce que quand on porte la parole de la vérité dans un pays où on n'a plus le droit d'avoir de liberté de parole, parce qu'on est quand même rentré dans une forme de dictature sanitaire, maintenant on est en état d'urgence permanent. Il y a même une loi qui est passée au mois de décembre qu'un médecin ne peut plus s'exprimer contre la parole de l'État. Moi, je rappelle quand même que c'était inscrit dans la Constitution qu'un professeur des universités a une liberté de parole. Je n'ai injurié personne, je n'ai fait aucune faute au code de déontologie, contrairement à ce que certains ont voulu dire. Je suis très droit dans mes bottes, j'ai toujours dit la même chose depuis plus d'un an, donc là, on ne peut pas m'attaquer là-dessus. Et je défendrai toujours la vérité, et quand on défend la vérité, on finit par être connu, ça, je suis confiant.
Bernard Cron,
non, je me... brusais les ailes en défendant la vérité.
Bernard Cron, je me tourne vers vous. Votre livre est construit autour de questions. Il y a 13 questions, je crois, qui vont radiographier l'ensemble des problèmes du système hospitalier français. On va pas rentrer dans le détail de toutes ces questions, mais il y a une question justement qui nous préoccupe et qui concerne d'ailleurs Christian Perron, que vous évoquez dans votre livre. Vous posez cette question: existe-t-il un complot contre les médecins? Parce que quand on porte la parole de Christian Perron, quand Christian Perron porte sa parole, on l'a traité de complotiste et on a monté une cabale en disant qu'il était quasiment fou, comme Raoult, comme d'autres. Est-ce qu'il y a un complot contre les médecins?
Bien sûr qu'il y a un complot contre les médecins.
Et mais pourquoi?
Je peux le dire très librement, dans la mesure, en dehors des activités scientifiques à l'Académie de chirurgie ou à l'internat des hôpitaux de Paris, où je suis vice-président de l'association, j'ai pu voir la descente aux enfers contre les médecins. Ça a commencé sous Giscard d'Estaing, avec les frères Judet, qui s'opposaient à Giscard d'Estaing et qui ont été démis de leurs fonctions à l'époque, après des procédures. On ne veut pas de fortes têtes. On ne veut des médecins qui soient dans le moule, qui soient obéissants, avec le plateau hospitalier, qui est une meilleure réforme qu'on ait pu faire. On n'a pas vu le défaut qui était dans le fruit, le ver qui était dans le fruit. C'est qu'on a fait des médecins des fonctionnaires. Ils sont plein temps, ils sont fonctionnaires. Il faut donc plaire à l'administration, plaire aux politiques, sinon elle les casse. Christian Perron, qui ne plaisait plus à la politique, et en particulier à M. Hirsch, à l'assistance publique. L'assistance publique de Pahut a les plus mauvais résultats.
Il faut rappeler au passage que Christian Perron a participé à la politique de santé de plusieurs gouvernements.
Tout à fait. C'est pour ça que je les embête, parce que j'étais dans le système pendant des années, pendant 15 ans. J'ai présidé la commission maladies transmissibles de deux instances qui sont devenues le Haut Conseil de la Santé publique. J'ai présidé la politique vaccinale pendant des années en France, à l'OMS. J'étais président du Collège des professeurs de maladies infectieuses, président du Conseil national des universités. C'est le jury qui nomme tous les professeurs d'infectieux. C'est moi qui ai obtenu que la spécialité maladies infectieuses soit reconnue officiellement par le ministère de la Santé il y a quelques années. C'est 10 ans de lobbying. Donc je me suis battu avec mes tripes pour ma discipline. J'ai joué le jeu, j'ai conseillé des gouvernements pour toutes les épidémies. Et c'est pour ça qu'ils sont mal. Parce que quand le Haut Conseil de la Santé publique rend des avis illégaux qui ne sont pas faits dans les règles, et que ça fait un an que je le dis en public, que personne n'a bougé, que tous les règlements sur la gestion des conflits d'intérêts dans les comités officiels qui recommandent le gouvernement ont été violés. C'est-à-dire que normalement, toutes les personnes qui ont des conflits d'intérêts, j'ai rien contre eux, s'ils veulent travailler avec l'industrie, mais ils se barrent de ces conseils. Et sinon, un ministre, qui est normalement un ministre, qui devrait protéger les Français, devrait les avoir virés depuis un an. Donc le ministre le sait très bien, Emmanuel Macron le sait très bien, c'est-à-dire qu'ils sont complices de cette politique de conflit d'intérêts. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, je dis, ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut faire le ménage, et que ce soit des gens intègres qui conseillent les gouvernements.
Xavier Bazin, deux questions. Est-ce que une réaction au propos du professeur Perron et du docteur Cron, premièrement, et est-ce que vous voyez là la marque, dans tout ce qui vient de se dire, de Big Pharma? Est-ce que Big Pharma travaille derrière pour éradiquer tout propos gênant et pour placer ses produits?
Bien entendu. D'ailleurs, j'approuve totalement les propos qui ont été tenus, et beaucoup d'admiration pour le courage du professeur Perron, mais vous voyez bien que ça fonctionne, parce que professeur Perron a beaucoup de courage, mais il a la chance d'avoir sa carrière derrière lui, d'avoir fait une immense carrière. Mais imaginez les jeunes médecins, l'intimidation que ça a produit, tout ce qui s'est passé autour de lui. Vous savez, c'est une manière de faire un exemple pour décourager les autres. Comment voulez-vous que maintenant les médecins puissent avoir la plupart des médecins, s'ils ne sont pas tous professeurs d'université avec une parole libre, et encore quand ils le sont, vous voyez comment ça se passe, ils sont traînés dans la boue, comment voulez-vous obtenir une parole libre? Et c'est comme ça que vous créez un faux consensus apparent, où en fait les médecins que vous voyez sur les plateaux télé ils disent tous la même chose, et on a l'impression du coup qu'ils pensent tous la même chose, mais c'est absolument pas le cas, c'est que les autres ont trop peur de parler, de se faire avoir des ennuis avec le Conseil de l'Ordre, ou d'avoir mauvaise presse dans les médias, ce qui est tout à fait éminemment compréhensible, et donc voilà comment on arrive à une sorte de totalitarisme de la pensée, où on fait croire en instillant de la peur chez ceux qui disent la vérité, on fait croire à un consensus qui n'est pas réel.
Bernard Cron.
Oui, gouverné par la peur, c'est très bien dit. Je vois le problème des réanimations. En début de mes études de médecine, je prenais des gardes de réanimation, de rein artificiel, et donc Strum, c'est-à-dire de respirateur artificiel. On était formés en 8 jours pour pouvoir prendre ces gardes. Donc si on avait voulu réarmer l'hôpital, avec les 10 000 infirmières à la retraite, jeunes retraités, et les étudiants en fin de cycle, on aurait pu les former à la réanimation. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Soit parce qu'ils sont incompétents, soit parce qu'on nous a menti sur les réanimations. Moi, j'ai toujours connu des services de réanimation pleins. Quand il y a quelqu'un à faire rentrer dans le service de réanimation, on fait sortir quelqu'un de moins grave. On nous a dit que les services de réanimation étaient saturés.
C'est faux, ça ?
Mensonge. La moitié des malades qui étaient en réanimation étaient Covid, la moitié était sous oxygène, ils n'étaient pas intubés et ventilés. Donc on aurait très bien pu organiser les services de réanimation.
C'est un mensonge qui profite à qui ?
À qui ça profite ? D'abord la rémunération du service de réanimation. C'est l'endroit où c'est payé le plus cher. Et il y a une surrémunération pour le Covid. Les chefs de service et les médecins hospitaliers, en dehors du docteur Perron et du docteur Raoult, sont prisonniers du système, puisque ce sont des fonctionnaires plein temps. Donc ils ne peuvent pas déplaire à l'administration, ils ne peuvent pas déplaire à l'assistance publique, à M. Hirsch, sinon on leur casse leur carrière. Donc ça profite à qui ? Je pense que dans le livre « Blouse blanche, colère noire », je démontre qu'on veut détruire le système de santé.
On va y revenir. Avant de revenir sur le système de santé français, Xavier Bazin, je voudrais qu'on creuse cette histoire d'hydroxychloroquine et ce scandale, et qu'on la mette au regard de ce qui s'est passé avec le Remdesivir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire de
Remdesivir? Oui, c'est vraiment l'histoire d'un deux poids, deux mesures. Parce que pour ceux qui ne sont pas très au fait de tout ça, ils pourraient se dire, bon, il y a eu un principe de précaution avec l'hydroxychloroquine. On n'était pas sûr à 200% que ça pouvait marcher. Donc, on a évité. Sauf que quand on fait la comparaison avec le Remdesivir à 3000 euros de Gilead, qui était une nouvelle molécule dont on n'avait aucun recul sur les effets indésirables, qui n'avait aucune donnée probante en sa faveur, et pour lequel on a déroulé le tapis rouge au même moment où on diabolisait l'hydroxychloroquine, quand on compare les deux, là, pour le grand public, ça devient évident qu'il y a un énorme problème qui est lié au conflit d'intérêts et à l'influence massive de Gilead dans cette épidémie. L'apogée, si j'ose dire, de cette affaire étant cette commande, effectivement, qui a été évoquée de l'Union européenne, pour 1 milliard d'euros de Remdesivir en septembre, début octobre 2020, alors même que l'Organisation mondiale de la santé avait finalisé un essai clinique géant dans beaucoup de pays sur des milliers de patients, montrant de façon absolument définitive que le Remdesivir ne servait à rien.
C'est ça, le Remdesivir est inefficace en fait.
Voilà, donc ça c'était prouvé, mais là, au-delà de tout soupçon, par l'Organisation mondiale de la santé dans son grand essai, Solidarity, et à ce moment-là, l'Union européenne commande pour 1 milliard d'euros de doses de Remdesivir. Parce que si vous ne voyez pas là un problème majeur...
C'est le résultat de quoi ? De lobbying ? C'est-à-dire que Big Pharma a pris en otage les politiques publiques ou les commandes publiques ?
Ceux qui ont recommandé ça aux fonctionnaires de la Commission européenne sont soit directement corrompus, soit c'est leur esprit critique qui a été corrompu par des années de coexistence et de collaboration avec l'industrie pharmaceutique, mais dans un cas ou dans un autre, c'est tellement contraire en fait à la logique sanitaire que ça ne peut venir que d'une influence très forte de l'industrie pharmaceutique et en l'occurrence de Gilead. Donc là, on a vraiment ce banal médicament dont on connaît bien les effets, hydroxychloroquine, qu'on veut surtout pas utiliser, qu'on interdit, et à côté de ça, tapis rouge pour le Remdesivir, alors même que les études les unes après les autres ont montré son inefficacité totale et sa toxicité, sachant qu'au départ on savait que c'était toxique pour le rein et le foie, et maintenant on vient d'apprendre que c'est aussi toxique pour le cœur, et comme l'a dit le professeur Perron, en plus il y a un risque de mutagénèse et donc de créer de nouveaux variants. Enfin bref, ce médicament n'a strictement rien pour lui, et en plus il doit être injecté, donc forcément à l'hôpital, donc forcément trop tard pour un antiviral. Donc Christian, là vraiment il y a une absurdité totale.
Christian Perron, oui, alors. Sur le remdesivir et surtout la question de la corruption.
Le remdesivir, ce qui est extrêmement choquant, c'est que même après que l'OMS, toutes les études ont montré que c'était toxique pour le rein, le foie, et puis pour le foie, ça avait été camouflé, parce que dans le rapport du Haut Conseil de la Santé publique, le rapport était barré en noir en disant données secrètes de Gilead. Bon, les avocats ont obtenu le texte en clair. Le ministère de la Santé savait déjà, en plus de l'atteinte rénale, qu'on connaissait que c'était toxique pour le foie. Et pourtant, des mois après que tout le monde a dit qu'il faut arrêter ce médicament, la Société de pathologie infectieuse de langue française, l'assistance publique hôpitaux de Paris, a continué à recommander l'inclusion de patients dans des études avec le remdesivir. Et le pire, c'est que la France et la Belgique ont fait cadeau de leur stock qu'ils ne peuvent pas utiliser de remdesivir qu'ils ont acheté à prix d'or. Ils ont fait cadeau aux Indiens. Mais pour qui on prend les Indiens pour des couillons? C'est honteux ce qui s'est passé au niveau international. Alors après, pour revenir sur le scandale de la corruption, ce qui me choque beaucoup au niveau mondial, et ça fait des années que je vois ça avec d'autres choses, moi j'ai travaillé pour l'agence du médicament, c'est que toutes les agences du médicament nationales, internationales, sont financées à 80% par Big Pharma. Que ce soit la FDA aux États-Unis, l'agence du médicament européenne, la NSM en France. Et il n'y a pas d'indépendance, malheureusement, de ces agences. Et comment la NSM, par exemple, en France, a sans arrêt bloqué l'hydroxychloroquine, même Raoult a demandé simplement une autorisation je ne sais plus le terme exact,
temporaire d'utilisation.
Ouais. Oui, c'est un nom un peu différent quand il y a déjà l'autorisation, mais enfin bon voilà, une autorisation temporaire sous contrôle des autorités, ça a été refusé. Pareil avec l'ivermectine, ça a été refusé.
Il faut rappeler que c'était un médicament qu'on utilisait.
C'était en vente libre quelques mois avant.
Des dizaines d'années, quoi.
Et en revanche, le remdesivir, mais c'est passé comme une lettre à la poste, à la FDA aux États-Unis, à l'EMA. 15 jours après, la NSM donnait l'autorisation, alors qu'on sait maintenant qu'ils savaient déjà que c'était toxique. Et moi-même, il y a plus d'un an, c'était, vous voyez, en mars, au début de l'épidémie en France, mars 2020, donc ça fait plus d'un an, je savais par des copains réanimateurs à Paris, on s'était eu au téléphone, vous savez, quelquefois le téléphone, ça marche mieux que des publications dans le Lancet, qu'il y avait une réanimation parisienne qui avait réussi à avoir du remdesivir avant tout le monde pour faire le traitement qu'on appelle compassionnel avec l'autorisation de l'Agence du médicament. Ils ont traité 30 personnes par voie veineuse. Eh bien, il y en avait 15 qui se sont retrouvés en insuffisance rénale aiguë, en rein artificiel. Je le savais depuis plus d'un an. Et je me suis dit, bon, ben, c'est très bien, l'Agence du médicament va faire un communiqué la semaine prochaine. Que dalle. Après, je savais aussi que le Calétrac était vanté à l'époque par nos amis infectiologues, qui en fait sont des spécialistes du sida qui ont pris le pouvoir dans l'infectiologie, que le Calétrac allait sauver les patients. Et je sais par des réanimations parisiennes à l'époque, il y a eu des morts sous Calétrac, d'hémorragie digestive gravissime. Je me suis dit, bah, tiens, ben, l'Agence du médicament va faire un communiqué. Que dalle. Et qu'a fait l'Agence du médicament? C'est de diaboliser l'hydroxychloroquine qui marchait, qui n'est pas toxique, et les rares. Il y a eu des problèmes cardiaques pendant le Covid, mais qui étaient dus au virus et pas du tout au médicament. Mais ça, on a oublié de le dire, pourtant c'était démontré.
Bernard Cron, page 132 de votre livre, que j'ai lu attentivement, comme les autres, vous écrivez: en conclusion, avoir mis ce traitement sur la liste des toxiques empêche les médecins de soigner au profit des Big Pharma et de ces antiviraux. Ça confirme tout ce qu'on
vient de dire. Je confirme absolument. D'ailleurs, ce qui était absolument indispensable, c'est de prendre en charge les malades tôt, avant qu'ils se décompensent. Si un médecin traitant voyait son patient, il ne faut pas le mettre au Doliprane. Le Doliprane, il faut savoir qu'au-delà de 2 grammes, ça peut être toxique. Il faut le prendre en charge. Alors, on le soigne avec ce qu'on pense utile, qu'il s'agit de la vitamine C, de la vitamine D, de l'ivermectine, de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Il faut leur poser un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygénation et en cas de décompensation, les mettre sous oxygène et pouvoir démarrer, parce que c'est une maladie qui atteint les vaisseaux du poumon et les vaisseaux généraux, aux anticoagulants, à la dexaméthasone, de façon à éviter le passage en réanimation. Partout où ça a été fait, le nombre de morts a été diminué d'un tiers.
Alors justement, merci de me donner l'occasion d'arriver sur une transition. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que des solutions, il y en avait, comme vient de l'évoquer Bernard Cron. Et puis, il y a aussi, quand on vous lit Christian Perron et quand on lit Xavier Bazin, il y a des remèdes à ce Covid. Vous pouvez expliquer.
Et quand l'épidémie est arrivée à Garches, vous savez qu'à l'assistance publique, ils avaient bloqué un petit peu la distribution d'hydroxychloroquine. Moi, j'ai la preuve de tout ça, donc si on m'attaque, j'ai les mails, je peux le prouver. Que je ne sais pas, la pharmacie centrale des hôpitaux, qui s'appelle la GEPS, que la Direction Générale de l'Assistance Publique avait mis sous contrôle la distribution. Moi, j'ai obtenu de la chloroquine à Garches parce que j'avais gueulé un soir dans les médias. On m'avait attaqué là-dessus en disant que les armoires avaient été pillées. Et j'avais la preuve parce que j'ai envoyé le mail quand les médias m'ont attaqué. Donc, il y a eu des choses pas claires. Moi, j'ai eu de la chloroquine parce que j'avais un peu ouvert ma grande gueule. J'ai pu soigner des malades. On a eu des taux de mortalité à Garches très bas par rapport à d'autres hôpitaux. Et on a eu des taux de mortalité comparables à l'IHU de Marseille. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Mon équipe était à fond avec moi, on a publié. Et là, ça a été le drame, parce que les jeunes de mon équipe ont été harcelés au téléphone par des infectiologues, plus ou moins jeunes, pour leur dire qu'ils travaillaient qu'un charlatan. Ça a été épouvantable dans mon service. Du coup, ils ont eu la trouille, et les jeunes ont eu la trouille. Ils se sont rangés dans le système. Il y a même une grande méthodologiste française qui a écrit à un de mes adjoints pour dire « votre article, c'est un torchon ». On s'est fait traîner dans la boue en disant qu'on avait pété les plombs. Et notre reproche, c'est d'avoir guéri. Et ça, je sais que j'ai des collègues qui n'ont pas accepté qu'on ait eu des bons résultats. Regarde, du coup, vous savez ce qu'on m'a reproché, c'est que dire qu'on a eu des bons résultats, c'était accuser mes collègues d'être pas bons. J'ai jamais accusé de ça.
Il y a quelque chose d'incroyable pour le novice et le béotien que je suis en matière de santé. Quand on lit votre livre, Christian Perron, et quand on lit celui de Xavier Bazin, on s'aperçoit qu'il y a des remèdes naturels et efficaces qui peuvent traiter, ou en tout cas éviter, une forme grave du Covid. Vous pouvez Xavier Bazin, juste Christian Perron d'abord, et je reviens vers vous après. D'accord. À ce sujet-là.
Quand vous parlez des méthodes naturelles, c'est les plantes, par exemple.
Vous évoquez un certain nombre de...
Les médicaments, je dirais, de la pharmacie, on a vu l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc, la vitamine D, maintenant c'est prouvé, il y a des études, même des fortes doses de vitamine C. Après, il y a les méthodes plus naturelles à base de plantes, l'artémisia, avec laquelle j'ai travaillé en Afrique, qui fait des miracles actuellement en Afrique sur le paludisme, bien qu'il y ait eu des attaques contre moi, mais j'y reviendrai une autre fois. L'artémisia, les Chinois avaient vu que ça marchait du temps du SRAS de 2003. Même Anthony Fauci l'avait reconnu. Il y a eu des... C'était très utilisé. Alors, c'est très utilisé de façon courante en Afrique, en Asie. Et quand il y a eu la nouvelle épidémie en Chine, les Chinois ont tout de suite vu que ça marchait au laboratoire. Ce qui a été confirmé par le laboratoire Max Planck en Allemagne. Donc ça a été largement utilisé comme ça sur le terrain en Asie. Les pays asiatiques ont largement contrôlé, probablement, je n'ai pas la certitude scientifique, ça n'a pas été randomisé grâce à ça. On a vu les résultats à Madagascar, dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a des études randomisées qui ont été faites aux États-Unis et au Mexique, donc on attend toujours les résultats. Mais voilà, de toute façon, c'est un produit qui n'est absolument pas toxique, utilisé depuis des millénaires dans la médecine chinoise traditionnelle, qui marche sur beaucoup
Ces produits sont efficaces.
C'est in vitro, c'est prouvé. In vivo, je veux dire, chez l'homme, ça semble démontré par l'efficacité collective, puisqu'on a vu les résultats dans certains pays. Maintenant, je n'ai pas la preuve scientifique, par une étude randomisée contre placebo, que ça marche. J'ai dit, les études, elles ont eu lieu. Après, il y a un autre médicament naturel qui s'appelle la nigelle, ou nigella en latin, qui est le cumin noir, très utilisé depuis l'Inde ancienne, les pharaons et tout le monde de musulmans, parce que Mahomet avait fait la promotion de ce médicament naturel. La nigelle, il y a eu des études randomisées au Pakistan, randomisées avec tirage au sort, qui ont démontré que ça marchait. Donc voilà, il ne faut pas être obtus. Mais malheureusement, l'industrie pharmaceutique tue systématiquement tout effet thérapeutique des plantes, et ils oublient que 80% de leurs médicaments viennent des plantes. Mais comme les plantes ne sont pas brevetables, ils ne veulent pas en entendre parler, et ils nous traitent, les médecins qui traitent avec ces plantes, de charlatans.
Xavier Bazin, ça va complètement dans le sens de ce que vous décrivez, c'est le deuxième scandale, l'omerta sur la prévention et les remèdes naturels efficaces. Alors vous parlez beaucoup, vous, de la vitamine D. Qu'en est-il
En fait, En fait, je voudrais faire une distinction entre, d'un côté, les remèdes, les médicaments, si vous voulez, pour que ce soit antiviral ou anti-inflammatoire, pour combattre le virus ou l'inflammation liée au virus. Ça, c'est une chose, c'est l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, les plantes, l'artémisia et d'autres plantes dont a parlé le professeur Perron. Mais ça, on répond à la maladie. Et je trouve qu'on oublie la moitié...
Vous allez voir, pour nos auditeurs, vous expliquez qu'en fait, l'industrie pharmaceutique a façonné notre système de santé pour focaliser l'attention sur le médicament et non pas sur la santé, en fait.
Alors voilà, exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'on oublie la moitié de l'équation, qui est qu'il faut rappeler quand même, c'est le terrain de la personne. Parce qu'il faut rappeler quand même que ce virus, chez beaucoup de monde, il ne cause qu'un rhume ou une petite mauvaise grippe. Qu'est-ce qui fait que le même virus cause un petit rhume ou une petite mauvaise grippe chez certaines personnes et envoie en réanimation d'autres personnes? C'est le terrain, c'est-à-dire la capacité, la puissance en fait du corps et de l'organisme, de son système immunitaire à faire face à un pathogène. Et la médecine, ça je suis désolé, mais ça c'est un trait problématique de la médecine depuis 50 ans, c'est qu'elle se focalise sur la maladie et pas assez sur la santé. Et la santé c'est quoi ? C'est la moitié de l'équation, c'est avant d'attendre de tomber malade pour trouver des antiviraux, des anti-inflammatoires, c'est de renforcer la puissance du corps à se débarrasser des virus des autres pathogènes en l'occurrence, ou ça vaut encore plus pour les maladies de civilisation. Et donc, et c'est là où les remèdes naturels dont je parle, la vitamine D, le zinc, le sélénium, la vitamine C et certaines vitamines B, sont essentielles, mais sont différentes dans leur action des médicaments ou des remèdes dont on a parlé. Ce qu'ils font, c'est uniquement renforcer de façon normale la capacité du corps à combattre les agressions. Et ce qui est très choquant, c'est que ce sont des substances naturelles, si vous voulez, qu'on doit avoir dans le corps en quantité suffisante. Et il n'y a aucun débat nulle part pour dire, tout le monde est d'accord, tous les médecins sont d'accord, pour dire qu'il ne faut éviter les carences en vitamine D, en zinc, pas seulement pour le système immunitaire, mais pour un ensemble de fonctions pour lesquelles ces vitamines et minéraux doivent être en quantité suffisante. Et donc, il n'y avait absolument aucun risque et que des bienfaits, même si c'est pas extraordinaire, ça n'agissait pas contre le virus, il n'y avait que des avantages à dire, attendez, on est face à une pandémie, il faut supplémenter, notamment dans les EHPAD, où on sait qu'il y a des carences énormes en vitamine D et en zinc, supplémentons. Si on veut faire preuve d'extrêmement de prudence, on peut doser dans le sang, mais moi je pense que ça ne sert à rien, parce que sur quelques mois, avec des doses raisonnables, il est impossible d'avoir un problème avec une supplémentation de vitamine D, de zinc, de sélénium et de vitamine D, et de vitamine B, oui, et C. Il n'y avait donc aucun inconvénient, ça coûte pas très cher, à renforcer le système immunitaire, notamment dans les EHPAD où on pouvait facilement distribuer de la vitamine D et des multivitamines, pour éviter la dégradation et les formes graves. Et sachant qu'on avait des preuves de longue date de l'efficacité des nutriments dont je viens de parler sur les infections respiratoires, il y avait une méta-analyse du BMJ, British Medical Journal, de 2017 qui avait montré l'intérêt de la vitamine D. Il y avait plusieurs publications sur le zinc par rapport au coronavirus habituel de l'hiver. Donc on avait en fait déjà dès le début toutes les raisons de recommander ces micronutriments, encore une fois pour renforcer la capacité du corps
et là encore, est-ce que c'est l'action de Big Pharma qui masque un peu c'est...
Alors oui, alors là c'est une action à la fois ancienne, c'est-à-dire que pour moi c'est l'angle mort de la médecine sous l'influence, de mon point de vue, de l'industrie pharmaceutique, parce que je vois pas d'autre explication possible à cet angle mort qui est de la focalisation sur la maladie et pas suffisamment sur la santé. Et on le voit d'ailleurs chaque année, on le voyait avec la grippe, quand on parlait de prévention on parlait que de vaccins. Alors qu'on sait que le vaccin est très moyennement efficace, en particulier chez les personnes qui en bénéficieraient le plus, c'est-à-dire les personnes vulnérables. Et on ne parlait jamais de vitamine D, ce qui n'était pas le cas évidemment, nous, dans nos publications à Santé Corps Esprit, où on parlait beaucoup de vitamine D chaque hiver. Mais il ne faut pas s'étonner qu'au moment de la crise de coronavirus, Étant donné qu'on n'a jamais parlé de cette partie-là essentielle de la prévention du système immunitaire, ça ne m'a pas étonné qu'on n'en parle pas au départ. Ce qui m'a plus étonné, c'est que quand il y a eu une accumulation d'études scientifiques pour confirmer ce dont on pouvait se douter, puisqu'à partir du moment où le corps est fort, il est contre un virus, il peut l'être contre n'importe quel virus, que ce soit un nouveau virus, qu'il soit manipulé ou pas. Et donc à partir du moment où on a vu l'accumulation des études scientifiques sur la vitamine D, sur le zinc, sur le sélénium, et en plus sur la vitamine D, on a eu des études d'intervention, c'est-à-dire qu'il y a eu deux études espagnoles où on a donné de la vitamine D à des gens qui étaient malades et avec des résultats absolument époustouflants sur le nombre de passages en réanimation et de morts.
Xavier j'aimerais, je vous coupe juste pour entendre Bernard Comte sur ce sujet brièvement, parce que je voudrais qu'on évoque maintenant le confinement et les vaccins. Bernard Comte, est-ce que vous partagez ces propos?
Et oui, autre question. Je les partage, mais je voudrais surtout insister, puisqu'on va bientôt manquer de temps, c'est la gravité des déprogrammations de la chirurgie. Il faut savoir que les chaînes de cliniques qui sont contrôlées maintenant par des fonds de pension et par des capitaux étrangers ont déprogrammé largement les interventions à la demande de l'État, jusqu'à 80% de déprogrammation, car leur chiffre d'affaires était garanti. Mmh. Avec un chiffre d'affaires garanti, pour eux, financièrement, c'était très bien de déprogrammer. Mais le directeur de l'INCa a déclaré que la perte de chance pour les cancers allait dépasser 10%.
Et cette déprogrammation a été effective
ou... Elle a été plus ou moins effective sur les endroits. Ça dépendait de la force du directeur de la clinique qui obéissait. Dans les chaînes Ramsay, elles ont été effectives puisque leur chiffre d'affaires était garanti. Dans les quelques cliniques familiales privées qui restent encore, il y a notamment une chaîne qui est contrôlée par un médecin d'Amiens, ceux-là ont des moins déprogrammés. Mais déprogrammer la chirurgie... Ces 200 grèves de reins qu'on n'a pas pu faire, il faut savoir que les grèves de reins ne se conservent pas, il faut avoir un greffon disponible. Si on ne peut pas l'utiliser, eh bien le greffon est perdu. Il y a eu plus de 200 grèves de reins qui ont été perdues comme ça. On va avoir d'autres catastrophes qui sont les morts non-Covid induites dans les pathologies générales et notamment en chirurgie. C'est beaucoup plus grave encore que l'absence de soins des malades au départ.
Xavier Bazin, nous sommes aujourd'hui dans une période de déconfinement et de vaccination tout azimut. On va aborder ce sujet avec Christian Perron et Bernard Comte, mais il y a une formule qui m'a beaucoup plu dans votre livre qui concerne donc le confinement. Et quand vous parlez de confinement, vous parlez de crime contre l'immunité. Il ne fallait pas confiner.
Alors, écoutez, sur le premier confinement, je peux comprendre qu'il y a eu un affolement un peu généralisé, un risque d'engorgement des hôpitaux qu'on savait pas trop. Encore que c'était absolument dans aucun plan initial de lutte contre une pandémie, les confinements. Mais disons, admettons. Ce qui est vraiment incompréhensible, c'est qu'on ait refait la même erreur à l'automne, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments qui montraient que ça marchait pas. Et qu'en plus, ça on le savait dès le début, c'est un crime contre l'immunité. Pourquoi ? Parce que je parlais du terrain tout à l'heure, mais c'est pas seulement d'avoir une bonne réserve en vitamines et en minéraux. C'est faire de l'activité sportive. L'activité est essentielle pour maintenir un bon système immunitaire. Or, enfermer les gens chez eux en leur autorisant à peine à marcher autour de leur pâté de maison, c'est évidemment très dommageable pour le système immunitaire. Quand on est enfermé chez soi, on mange mal, on mange de la malbouffe, très mauvais pour le système immunitaire. Quand on est dans la psychose qui est entretenue volontairement par les pouvoirs publics avec le directeur général de la santé qui égrène le nombre de morts, le stress est très mauvais pour le système immunitaire. Bref, et bien sûr, ne pas sortir, prendre le soleil, la vitamine D est aussi très mauvais. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui sont que, indépendamment de la possibilité de freiner la contagion, le confinement a des effets absolument délétères sur le système immunitaire et donc la capacité à résister aux infections.
Christian Perron,
on a vu que ça marchait pas sur la circulation du virus.
Christian Perron sur le confinement.
Que le confinement n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, la Suède qui n'a pas confiné, maintenant l'épidémie est quasiment terminée. Alors, je loue pas complètement le gouvernement suédois parce que malheureusement ils ont plutôt empêché les médecins de prescrire l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Sinon la Suède aurait été championne du monde. Mais voilà, ils ont laissé le virus circuler comme dans n'importe quelle épidémie. C'était la chose à faire. Les pays qui ont gagné, ils n'ont pas confiné toute la population en bonne santé. Ils ont isolé de façon très stricte les malades pendant 15 jours et les ont traités tout de suite. C'est comme ça qu'on gagne une épidémie. Surtout que là, il y avait des traitements qui marchaient, on le sait depuis le début, malgré ce que disent les gens qui ont plein d'argent de l'industrie pharmaceutique dans les poches et qui disent le contraire. Donc, isoler les malades de façon stricte, parce que là, les malades, on les laissait à la maison, donc ils confinaient, ils contaminaient la famille. Isoler de façon stricte, ça peut être à l'hôpital ou à domicile, mais c'est de façon très stricte. Mais ça dure 15 jours. C'est pas isoler les personnes âgées dans les EHPAD et les couper de leur famille pendant 6 mois qui se laissent mourir de chagrin. Donc voilà, donc le confinement, maintenant, il y a la preuve. Et comme le port des masques en extérieur, il y a la preuve que ça ne sert à rien. Même une grande étude randomisée au Danemark a montré que ça ne servait strictement à rien. Il y avait une différence qui était tellement faible que ça ne servait à rien. Et pourtant, le gouvernement continue à imposer le masque aux gens dans la rue, ce qui est une aberration. Et nos enfants, ils font des formes très bénies, il y a très peu de morts, ils ne transmettent pas. Et les masquer, regardez nos enfants dans quelle détresse ils sont. Les jeunes n'arrivent plus à apprendre la lecture et la parole parce qu'ils ne voient plus les lèvres bouger.
Ça, c'est oui, les dommages collatéraux.
Et les suicides d'enfants maintenant, c'était du jamais vu dans l'histoire des psychiatres infantiles. Ils voyaient des suicides d'adolescents mal dans leur peau, mais pas des suicides d'enfants de 8-9 ans. Et il y a bien plus d'effets de mort dû au confinement, à la détresse sociale, au suicide, comme le disait mon collègue, aux gens qui n'ont pas été opérés de cancer, ou même les infarctus qui n'ont pas pu arriver à l'hôpital parce que le 15 était saturé, des pertes de chance colossales. Et alors que cette maladie, les morts qu'on a mis sur le Covid, on sait qu'ils n'étaient pas tous dus au Covid parce que c'était des gens morts d'autre chose avec un test PCR qui est faussement positif dans beaucoup de cas. Et on a fait croire qu'il y avait une épidémie gigantesque.
Pardon de vous couper. Aujourd'hui, on vaccine à tout va, on déconfine et on vaccine. Alors, je rappelle que vous avez été président de la commission des maladies transmissibles au Conseil de la Santé publique, qui supervisait, entre autres, le comité technique des vaccinations. Oui. Est-ce qu'il faut vacciner à tout va ? Qu'est-ce qu'il faut penser des vaccins ? Puisqu'on est sur Big Pharma, est-ce que cette vaccination tout azimut est aussi la marque de Big Pharma ? Je vais vous poser la question à tous les trois, mais Christian Perron.
Bien sûr, d'abord, je voudrais dire que j'étais un farouche défenseur des vaccins. Je les aime défendre, j'ai défendu des politiques, j'étais dans les médias pour défendre des vaccins qui étaient injustement attaqués. Donc, je suis à fond pro-vaccinal. Là, on n'a pas affaire à des vaccins comme d'habitude. Ce sont des produits qui s'apparentent plus à la thérapie génique, qui ont été conçus avant même qu'il y ait la pandémie. Maintenant, on en a les preuves avec les mails d'Anthony Fauci, etc. Et on veut vacciner, quoi, pas vacciner, injecter des produits dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Quand on dit « je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans », c'est un communiqué officiel de l'Agence européenne du médicament tout récent. C'est pas du complotisme, c'est des faits. On injecte ces produits, on veut les injecter à des milliards de gens, que l'épidémie est en train de se casser la figure partout dans le monde. Bon, si vous regardez, je ne parle pas des cas, parce que les cas, c'est des faux cas avec des tests PCR bidons. Mais les morts, ils sont surévalués, mais ils baissent partout. Il y a eu le coût du Brésil, c'est en train de chuter. Il y a eu le coût de l'Inde, c'est en train de baisser aussi fort. Maintenant, ça y est, l'épidémie, elle est en train de baisser. Alors, on va nous sortir peut-être un nouveau variant extraordinaire. Mais la mortalité mondiale, elle est inférieure à 0,05%. Même il y a des gens l'autre jour qui ont dit 0,03%. Et vous vous rendez compte, n'importe quel virus saisonnier maintenant donne des taux de mortalité comme ça. On ne vaccine pas une population mondiale. On ne fait pas... Parce que pourquoi on continue à masquer
donc là,
nos enfants ?
C'est quoi ? C'est Big Pharma qui pousse à la consommation ?
Vous vous rendez compte, c'est des milliards qui sont en jeu. Et pourquoi on continue à masquer nos enfants alors que ça ne sert à rien ? C'est pour que les parents supplient les autorités en disant « Ah, pour libérer nos enfants, vite, donnez-nous le vaccin ». Et moi, je suis terrifié de voir les jeunes autour de moi qui veulent faire la queue pour aller se faire vacciner, uniquement pour dire « je vais retrouver ma liberté, je vais pouvoir voyager ». Alors que le pass sanitaire, je vous rappelle qu'Israël, qui était le premier à le mettre en place, l'a abandonné. Moi, j'ai des amis israéliens qui m'ont appelé en disant qu'ils étaient au bord de la guerre civile, qu'ils se battaient dans les familles, que c'était le gouvernement a dû reculer parce que ça devenait ingérable. Les États-Unis ont refusé le pass sanitaire. Ce n'est pas mis en place en Asie ni en Russie. Il n'y a que l'Union européenne qui a voté ça. Et l'Union européenne va rester toute seule au milieu du monde avec son pass sanitaire, alors que l'Organisation internationale du transport aérien s'était prononcée contre, que l'OMS s'était prononcée contre. Donc, je dis aux gens, résistez, refusez ce passeport sanitaire et je n'irai pas au restaurant si on m'exige un QR code. Je ne voyagerai plus, je m'en fous, j'attendrai que toute cette folie se termine. Et je suis désolé, je dis aux jeunes, si vous ne pouvez pas aller en Grèce cette année, ce n'est pas grave, vous irez l'année prochaine, mais résistez et attendez d'avoir des données de sécurité sur ces produits qu'on vous injecte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rapports d'effets secondaires graves, ce qui m'inquiète beaucoup.
Bernard Comte, vous consacré un chapitre à la question du vaccin, pour savoir si la France a perdu la course au vaccin, et puis surtout une annexe, page 233, une annexe du livre sur vaccin ou pas vaccin.
Ben, le problème, c'est que le train du progrès, comme disait Roger Hicor dans son livre, quand on monte dedans, on ne sait pas où il va. Je ne sais pas où va ce train du progrès du vaccin. Est-ce que c'est un progrès ou ça ne l'est pas? Est-ce qu'il va sélectionner des variants dangereux comme les antiviraux ou pas? L'avenir nous le dira. Moi, je crains qu'à l'automne, puisque ce virus n'est pas saisonnier, mais la saison, la chaleur, le changement de température fait baisser l'épidémie, car les gens vivent à l'extérieur et on ne se contamine pas à l'extérieur. Mmh. Porter un masque à l'extérieur, en forêt ou dans les parcs, c'est un non-sens absolu.
C'est débile, oui.
C'est débile. Le masque doit être dans les zones closes. Il doit être quand on est en contact avec le public. Alors, le vaccin, il est en route. Comment ça va se passer? Il y a d'autres vaccins qui sont en préparation. Le spike est toxique pour le système vasculaire. On a eu des accidents du vaccin liés à avec des hémorragies et des thromboses. Que donnera ce vaccin à terme? Est-ce qu'il y aura d'autres vaccins plus efficaces? J'en sais rien. Aucun expert n'est capable de le dire parce qu'il n'y a pas d'experts qui connaissent le corona. Il y a des experts qui sont d'excellents scientifiques comme le professeur Perron, comme le professeur Raoult, mais les autres experts ne connaissent pas plus ce virus. Voilà ce que je voulais dire.
Xavier Bazin, le vaccin, c'est la marque absolue, du pouvoir absolu, oui, de Big Pharma.
Déjà, je pense que c'est la seule explication possible à ce qu'on a dit précédemment sur l'absurdité du confinement et du masque à l'extérieur. Ça a une utilité, ces mesures. C'est pas débile, ça a une utilité, c'est que ça maintient une très forte pression sur la population et qui a envie de tout pour revivre normalement. Ça empêche la possibilité de se dire on vit avec le virus, on prend des mesures évidemment de prudence, etc. Mais on vit avec, il n'y a pas de masque à l'extérieur, il n'y a pas de confinement, on vit normalement. Mais si on vit normalement, on n'a plus envie de se faire vacciner, surtout par une substance totalement expérimentale sur laquelle on n'a aucun recul. Donc moi, là encore, je ne peux qu'attribuer ces mesures délétère à l'influence de l'industrie pharmaceutique et du tout vaccinal. Je voudrais pointer un autre élément, une anomalie, parce que c'est par les anomalies ou les absurdités, on peut même appeler ça les absurdités.
Rapidement, parce que j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on...
Quand même, il y a à peu près au moins 15 millions de Français qui ont eu la Covid. Okay, pourquoi est-ce qu'on les vaccine? On, à aucun moment, on a dit, alors qu'on manquait de vaccins en plus pendant des mois, on manquait de vaccins, y compris pour les personnes âgées, et à aucun moment, on s'est dit, ce qui est tout à fait logique, l'immunité naturelle, c'est généralement plus fort que l'immunité vaccinale, donc on n'a pas besoin de vacciner ceux qui ont déjà été infectés. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais parlé de ça, et maintenant on se rend compte qu'il y a encore plus d'effets indésirables quand on a déjà eu le Covid avec les vaccins que quand on l'a pas eu. Ça encore, c'est une anomalie, et je n'attribue qu'à une chose, c'est que si on commence à éviter
Bazin,
de vacciner...
Ça m'amène ouais, à vous reposer la question qui est le titre de notre émission. Est-ce que c'est parce qu'on est manipulé par Big Pharma, finalement?
Écoutez, oui, moi, je, si vous voulez, je n'ai pas les circuits exacts, même si on se doute des réseaux d'influence, mais je ne peux pas pointer, évidemment, tous les circuits exacts, les échanges d'emails, les transferts de fonds, tout ce que vous voulez. Par contre, je le déduis du fait que toutes ces mesures sont totalement absurdes d'un point de vue sanitaire et que, à l'inverse, elles renforcent les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Donc, il n'y a pas d'autre explication possible quand vous êtes devant des mesures absurdes d'un point de vue sanitaire, mais qui enrichissent les laboratoires, qu'il y a derrière, évidemment, des réseaux d'intérêts profonds qui mettent à mal notre système de santé.
Bernard Cron, manipulation
Probablement, parce que le directeur de l'OMS avait été mis en place grâce à la Chine, et ce directeur de l'OMS, qui n'est plus en place maintenant, était un incompétent et qui était un ministre de l'Éthiopie. Il y a un problème politique mondial qui se pose. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est du trafic d'influence? Ou est-ce que c'est de la prévarication? J'en sais rien, mais je sais que tout ça me semble pas bon.
Christian Perron, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que nous sommes manipulés par Big Pharma dans cette affaire?
Pour moi, dans cette affaire, c'est une certitude. D'ailleurs, quand on va éplucher tous les mails et tout ce qui ressort d'Anthony Fauci,
Qui ressort aujourd'hui, hein, en ce moment, il y a beaucoup de...
Il y a un immense scandale qui va péter, que l'on subodore depuis des mois et des mois. Là, il faudrait libérer le pays, enlever les masques, revivre normalement. S'il y a encore quelques cas, parce qu'il y a encore des cas, malheureusement, surtout chez les personnes à risque, on identifie parfaitement. Déjà, on les recharge de façon préventive en vitamine D, en zinc, en sélénium.
Nous sommes les jouets de Big Pharma, du coup
Un peu, quand même, moi, j'ai cette impression. Et on peut traiter précocement. Et puis, les avis officiels disent que ces produits qu'on appelle vaccins n'aura les résultats définitifs en fin 2021, 2022. Et ils ont déjà prévu dans l'Union européenne un passeport sanitaire définitif. Il y a une feuille de route pour dire le mettre en place pour tout le monde en 2022. Donc, on est en train de supprimer nos libertés individuelles pour une épidémie qui maintenant est contrôlée. Je ne dis pas que malheureusement, il peut y avoir encore des victimes, mais il y a des traitements qui marchent. Donc, il faut arrêter de... Vous rendez compte que les médias, tous les jours et tous les jours, 80% de l'information, c'est pour faire peur aux gens. Il faut arrêter cette actualité mortifère et il faut que les gens retrouvent la joie de vivre. On est gouverné par la peur. Il faut que les jeunes, ils ne sont pas à risque, ils puissent vivre normalement. S'ils ne peuvent pas aller voyager à l'étranger cette année, tant pis, ils peuvent attendre un petit peu, mais qu'ils vivent dans la joie et qu'ils arrêtent de... Et ce n'est pas eux qui tuent leurs grands-parents comme une publicité honteuse l'avait montré aux Français à la télévision.
Messieurs, je rappelle vos ouvrages, Bernard Combe, Blouse blanche, colère noire, Xavier Bazin, Big Pharma, démasqué aux éditions Guy Trédaniel, Bernard Combe, c'est chez Max Milo, et puis Christian Perron, décidément, ils n'ont toujours rien compris, chez Albin Michel. Merci infiniment à vous trois pour vos éclairages passionnants et quand même un peu inquiétants. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes.